Bonjour tout le monde et bienvenue à une balado-diffusion du bulletin GP. Mon nom est Abdou Sall et je vous accueille à l'émission d'après-course du Grand Prix du Japon 2022. J'accueille avec moi Jean-Sébastien Barbeau. Salut Jean-Sébastien.
Salut Abdou et un très joyeux anniversaire.
Merci beaucoup. J'ai mangé beaucoup de gâteaux.
Bien. Donc, bien. Et ça a été une course qui va passer à l'histoire, notamment dans ton cas.
Ouais.
Parce qu'on défonce une nouvelle décennie avec un nouveau champion du monde.
Yeah! Pour mes 30 ans.
Wouh! Yeah! Et moi, pour l'occasion, vous le voyez pas, parce qu'évidemment, c'est un balado audio, donc il n'y a pas de vidéo, mais je porte une magnifique chemise néerlandaise sur laquelle on voit plein de petites voitures, style des années Formule 1 années 50, donc très, très old style. Donc, pour célébrer le nouveau champion du monde, enfin, le deux fois champion du monde.
Oui, parce que...
Ou certains, comme diraient, le une fois champion du monde legit.
oui, oui. Exact. Là, cette fois-ci, c'est legit, parce que...
Oui, c'est legit dans une drôle de situation.
Exact, parce que c'est Max Verstappen qui a non seulement dominé ce Grand Prix qui aura duré les 3 heures complètes, devant Sergio Perez et Charles Leclerc, mais ce n'était pas l'ordre au fil d'arrivée. Esteban Ocon, 4e, Lewis Hamilton, 5e, Sebastian Vettel, 6e, Fernando Alonso, 7e, George Russell, 8e. N'ajustez pas votre appareil. Nicolas Latifi, 9e.
A.k.a. le GOAT.
GOATifi, 9e. Et Lando Norris termine 10e et on a perdu dans cette épreuve Carlos Sainz et Alex Albon au départ. Donc, normalement, je voulais faire les évaluations post-Grand Prix, mais je crois que ça va aller à la poubelle parce qu'on va parler du champion en titre, du nouveau double champion. Et d'ailleurs, Marc-André Fortin va se joindre à la discussion un peu plus tard. Donc, je crois que c'est de tous dans l'équipe du bulletin GP, probablement le plus heureux aujourd'hui.
Non. Vraiment? Marc-André, ouais. Prends pour Max Verstappen.
Eh oui.
Ah ben, c'est pas croyable.
Ouais. C'est une grosse surprise, je dois t'avouer.
Je tombe des nues.
Moi aussi.
Bon, allez, on se parle de ce beau Grand Prix-là quand même.
Ouais. Donc,
excitant quand même, non?
Quoi? Ouais.
Pour les 45 minutes qu'on a eues, pour les 2h15 avant, on oubliera ça.
Ouais, exact. Parce qu'il faut expliquer le départ. On a eu un tour. Ensuite, Carlos Sainz a accidenté sa voiture au virage 12. Et ensuite, parce que la visibilité était nulle, on a brandi le drapeau rouge. On a essayé de repartir l'épreuve vers, je crois... aux alentours.
Une heure après,
puis ce n'est pas le cas parce qu'il commençait à pleuvoir un peu plus. Et on a eu un Grand Prix dès 3h15, heure du Québec. Oui.
On comprend les Australiens, hein? Quand ils pestent que les Grands Prix sont en plein milieu de la nuit, c'est difficile d'aimer la Formule 1. Surtout dans leur cas, c'est dans la nuit du dimanche à lundi. Nous, on est chanceux, c'est un samedi à dimanche avec un férié pour lundi. Donc,
exact.
Mais c'est difficile sur le système parce que nous, on enregistre quand même 5 heures après la fin du Grand Prix, il est 9h30. J'ai un peu la tête dans le cul pour être poli. Hein.
Ouais, et j'ai un café juste à côté de moi, juste pour dire. Et
là, ah oui.
Est différente. Mais dans les circonstances, Max Verstappen a été dominant dans cette épreuve.
Mm.
Mais c'est la manière dont il a été, dont il a appris qu'il était champion du monde. Parce que dans le dernier tour, Charles Leclerc se loupe à la chicane. La court-circuit et revient devant Perez, le force.
Il le force à l'extérieur.
Il le force à l'extérieur, on va se le dire. Il le force à l'extérieur. Et c'est pendant l'entrevue qu'on annonce que Leclerc reçoit la pénalité. Cependant, on était tous sous l'impression que la FIA et la Formule 1 allaient attribuer le système de points qui a été introduit cette année après le fiasco de Belgique 2021. Donc, c'est-à-dire un certain nombre de points si la course
se termine selon 25, moins de 25%, 25-50, 53/4 et 75% et plus.
Voilà. Et Johnny Herbert nous annonce de manière dramatique que Max Verstappen est champion du monde. Et nous, on est comme « Quoi? Ah ouais? » Il donne la totalité des points.
Ouais, en quelle mesure tous les points sont accordés? On ne comprend pas et pendant quelques minutes, on n'a absolument pas compris. Juste attendre qu'on retourne voir le règlement 57, l'article 57, mm-hmm. qui dit très bien, si une course est suspendue conformément à l'article 57 et ne peut être prise, les points pour chaque championnat seront attribués selon les critères suivants. Mm-hmm. C'est noir sur blanc. Si la course se termine sur un drapeau rouge et uniquement un drapeau rouge, de cette façon-là qu'il faut l'interpréter, c'est là que la grille de points alternative s'applique. Sinon, full points.
Exact. Même si le Grand Prix du Japon officiellement s'est tenu pour 28 tours. Donc
à peine 50%.
C'est ça, à peine 50%. Mais il y a eu certains drapeaux rouges, mais le Grand Prix a pu se terminer dans la limite des 3 heures totales. Ce qui veut dire que tout le monde obtient l'ensemble des points.
La confusion s'explique par un changement de règlement historique. Avant, c'était lorsque le Grand Prix se termine au terme du temps, là où on se trouve, c'est là qu'on accorde le certain nombre de points. C'est par ça. Exemple, Australie 1986 ou Malaisie 2008. 2008 ou 2009, où on n'a jamais terminé le Grand Prix dans son entièreté. À partir de là, on regarde le nombre de tours, on fait la division pour le pourcentage, puis c'est là qu'on décide d'accorder l'ensemble des points ou la moitié des points. Dans ce cas-ci, si on avait appliqué le règlement tel qu'il était écrit encore l'année passée, on aurait accordé la moitié des points.
Exact.
En revanche, on a éliminé cet élément-là et on fait juste considérer si la course se termine sur un feu vert ou sur une voiture de sécurité ou dans l'autre cas, sous une voiture, le drapeau rouge. Si ça se remet dans le drapeau rouge, on va avoir cette grille de points, sinon l'ensemble des points. Lorsqu'on comprend cette chose-là, qui est super simple, rien à dire. La confusion, tout le monde l'a eu, les médias, les fans, un peu les équipes également.
Ouais.
Les seules personnes qui l'ont compris, c'est la FIA et c'est le télédiffuseur mondial pour la Formule 1 qui, lui, nous affichait les points. On disait, mais il se trompe, il nous donne full point, ça marche pas.
Oui.
Mais si, il avait raison, parce que la course avait toujours lieu et elle n'était pas arrêtée. Donc, on donne tous les points. C'est eux. C'était pas une faute de last name, comme en Australie, il y a 3 ans, qui est nouveau graphique. C'était vraiment la bonne chose. On était juste totalement confus. Mais quand on voit ça, il n'y a rien à dire.
Exact. Donc,
il y a simplement rien à dire. Il n'y a aucune controverse. Le mot controverse n'est pas là. C'est juste un quiproquo par rapport à tout le monde versus la FIA. Mais la FIA, super clair dans son règlement.
Exact.
Pour une fois.
Pour une fois.
Enfin, pour une fois. Non, ils sont souvent assez clairs. C'est juste on aime bien tiquer sur les éléments de règlement qu'on n'aime pas, mais celui-là, super clair.
Ah oh, oui. Écoute, on peut bien dire que la FIA... écrit le règlement de manière confuse parce qu'on doit aller retrouver. Mais cette fois-ci,
pas là-dessus.
C'était clair, net et précis.
C'était notre rôle de lire le règlement. Si on l'avait lu, on l'aurait compris.
Ouais.
Je pense que si on l'avait lu avant, là,
ouais.
il y a trois heures avant le Grand Prix, avant le début du Grand Prix, ouais. on aurait très clairement compris qu'ils auraient attribué l'ensemble des points. Donc Sky Sports, avec son infographie qu'ils avaient diffusée à la télévision et sur les médias sociaux, déjà avec des fautes à l'intérieur dans la distribution des points, à deux fois, non, ils se sont trompés. Crofty aussi s'était trompé parce qu'il y a eu une mauvaise compréhension des règlements. Donc, ce qui prouve qu'il faut lire les règlements, il faut les connaître, puis il faut faire attention.
Ouais. Exactement. Donc, là-dessus, la faute revient à nous. Donc.
Revient à nous. Ensuite, sur le Grand Prix en tant que lui-même, la domination de Verstappen, totale, complète.
Oui.
Il a mis une claque à tout le monde. À la mi-course, il aurait pu se faire. Quand la course terminait, il y avait assez de temps pour faire un autre arrêt, puis il aurait fini en tête.
Exact, parce que les conditions s'amélioraient de plus en plus au fur et à mesure. Donc, Verstappen aurait, avec un écart de 27 secondes, sachant que.
Oui. Il claquait une seconde et demie partout à tout le monde.
Oh oui, Max Verstappen, il a plu. Là, c'est Verstappen est un des maîtres de la pluie sur ce,
championnat. Il y en a quelques-uns comme ça. Là. Lui, Lewis Hamilton, au départ, Lance Stroll, évidemment, là, il a gagné cette place au départ, mais non, c'était une claque monumentale, ça. C'est une domination totale.
Ah oui. Et en plus, et parlant de Lance Stroll, son départ était superbe.
Son départ était canon. Si on avait eu un autre départ arrêté, Lance Stroll aurait gagné d'autres places. Ça, c'est certain. Puis il aurait terminé dans les points, disons-le.
Oh oui, parce qu'il finit 12e. C'était une bonne course de ça. C'était relativement...
Oui, il a connu un bon départ, c'est tout.
Ouais. Et en plus, je ne sais pas si tu as remarqué, mais il est allé sur la bande d'arrêt d'urgence en plus.
Oui. Il est allé très loin. Il est allé très, très loin pour aller faire ces dépassements-là. C'était impressionnant. C'était vraiment impressionnant.
Ah oh non, vraiment.
Jenson Button sur Sky Sport le louange en disant, il a su exactement où mettre l'accélérateur et puis il est allé très doucement puis il est allé. Sur les conditions intermédiaires changeantes, on le sait, Lance Stroll, un des meilleurs, c'est peut-être pas même le meilleur sur le plat parce que ces conditions-là durent pas très longtemps puis il n'y en a pas très souvent.
Exact. Donc,
souvenez-vous de Istanbul 2020.
Voilà. Et je pense qu'il aurait pu minimum finir dans le top 5.
Donc, oui. Très clairement.
Ah oui. Donc, et pour revenir justement à Verstappen, ben, on pourra dire que oui, il est double champion, mais cette fois-ci, il est champion dans les règles, sans controverse en tant que tel.
Aucune difficulté, meilleur pilote, sans doute aussi la meilleure voiture, ouais. A fait une super performance sur la fin de semaine. Leclerc aurait donné une bonne performance sur le sec quand même.
Ouais.
Sur le plus, ça a été plus difficile, mais sur le sec, on aurait eu une super course quand même. Mais on a eu une bonne course quand même dans l'absolu. Mais tout au long du championnat, 12 victoires cette année. Mais non, il reste encore 4 courses. Il peut aller en chercher sans doute 2 ou 3 autres victoires facilement. C'est même pas difficile. Si au Mexique, par exemple, il y a 1-2 pour les Red Bull, puis il n'y a pas beaucoup d'accords, soyez pas étonnés de voir, par exemple, un Verstappen laisser la place à Checo pour qu'il gagne son Grand Prix national. Ou il peut laisser des victoires. Il peut laisser des victoires à son coéquipier pour le mérite, pour aller confirmer la deuxième place au championnat. On va jouer stratégique pour assurer la deuxième place.
Exactement, parce que c'est je regarde.
Tout est fait de son côté.
C'est ça. Pour Verstappen, c'est réglé. Pour Red Bull, ça va être réglé dès Austin, ça c'est sûr. Alors,
parce qu'il en doit une bonne à son coéquipier, parce que Perez cette année a été assez là dans les moments où il fallait, ça a compté, il a fait la différence, il fait surtout la différence pour le championnat des constructeurs.
Oui.
C'est le meilleur coéquipier, à mon avis, que Verstappen a pu avoir depuis bonne lurette.
Oui.
La voiture est bonne, Perez est bon aussi, il assure, mais Verstappen écrase tout le monde.
Oh oui.
À voiture égale, il écrase tout le monde quand même.
Ah, c'est clair.
Il est trop fort pour la ligue.
Et je regarde le classement, il y a un point qui sépare Perez de Leclerc.
Ouais. Donc, ça va se battre jusqu'à la fin et Perez n'est pas nécessairement en position favorable pour finir deuxième.
Donc, d'où l'importance de Verstappen dans des situations, jouer la carte du bon coéquipier. Ce que Perez a fait évidemment à Abu Dhabi l'année dernière.
Oui. Surtout au Grand Prix du Mexique. Ça va être la folie furieuse à ce Grand Prix-là.
Oh, j'ai
très hâte. J'ai très, très hâte de le voir celui-là.
Oh, mon
dans les 4 courses qui restent, là, Mexique, mettez ça à votre calendrier. Vous ne voulez pas manquer ça.
Oh, oui, oui.
Surtout s'il y a un Perez en tête. Là. Oh.
Je pense qu'on va avoir la meilleure ambiance.
Et le podium dans le stadium, ça va être fou.
Ah oui, meilleure ambiance de tous les temps. Ça, c'est assuré si jamais il gagne. Et justement, parlant de Perez et Leclerc, parce que à la ligne d'arrivée, c'est Leclerc qui a fini deuxième, mais il a reçu une pénalité de 5 secondes pour avoir forcé Perez hors piste, en plus d'avoir court-circuité la chicane et obtenu un avantage. Et disons que Perez, ben, Leclerc n'a pas, il ne s'est pas énervé, il a tout de suite compris qu'il était dans le tort. Ce qui n'était pas le cas de Mattia Binotto, qui est furieux, il comprend pas pourquoi ça a pris aussi rapidement.
Dans le cas de Binotto, c'est normal. C'est le patron de l'équipe, c'est lui qui essaie de défendre aussi son poste en même temps. Je suis pas sûr qu'il faut lui jeter nécessairement la pierre pour les résultats de Ferrari cette année. On pourrait revenir au bilan de fin de saison notamment, mais Leclerc part de très loin au championnat de l'année passée, puis on lui demande de se battre pour le championnat, donc c'est déjà une chose qui relève un peu d'impossible. Mais pour Leclerc, la pénalité était évidente. C'est pas tant avoir court-circuité la chicane qui me choque, il a raté son freinage, donc évidemment, il est obligé de la court-circuiter. Mm-hmm. C'est le fait d'avoir bloqué Perez de façon assez dangereuse qui est le problème. Mm-hmm. Évidemment, c'est le dernier tour, tu essaies de défendre ta deuxième position, soit c'est légitime. Mais bon, là, il s'est battu pour aller la chercher, puis qu'est-ce qui est arrivé? Ben, il l'a un petit peu tassé, pénalité automatique. Pour moi, ça tombe sous le sens. C'est assurément une pénalité pour Charles Leclerc.
Définitivement. Ça, je suis 100% d'accord. Et encore une fois, bravo à la FIA d'avoir agi rapidement, parce que c'est vrai qu'on a... La semaine dernière, il y a eu des critiques à savoir pourquoi ça a pris du temps à la FIA de donner une pénalité à Perez. Et aussi pourquoi ils ont donné 5 plutôt que 2 fois 10. Mais ils ont été... Je pense que là-dessus, c'était clair, net et précis.
Il y avait l'autre raison aussi. C'est parce qu'eux, ils savaient que l'interprétation du règlement était claire concernant l'article 57. Donc, ils savaient très bien qu'il y avait une incidence sur le résultat du championnat du monde. Alors que nous, on se disait, ben non, il n'y a pas de championnat qui est joué là. C'est juste 50% des points. Donc, au pire, ils vont juste manquer un point pour être champion du monde. Donc, rien à voir. C'est ça. On poursuit l'histoire dans 2 semaines. De toute façon, c'est là qu'ils vont être champion du monde. Alors que non, en réalité, on était tous dans l'erreur.
Exactement. Et parlant de champion du monde, j'accueille...
Oh, je pensais que tu allais dire en parlant d'erreur.
Ça, c'est... Aïe, aïe. Désolé, Marc-André.
Salut, Marc-André.
Comment vas-tu?
Salut. Ça va très bien, vous?
Oui, ça va très bien, merci. Donc, rapidement, comment te sens-tu?
Bien. Bien, je me suis endormi hier, cette nuit. Je me suis réveillé, je me suis dit, bon, évidemment, ça me paraissait clair qu'il n'y avait pas de championnat qui jouait là. J'ai quand même ouvert ma télé, j'ai avancé au moment où je me suis endormi et j'ai vu que Max était finalement champion dans une situation un peu bizarre. Même lui ne le savait pas, son équipe ne le savait pas. Ouais. Ça... C'est une autre raison pour en gagner une autre de manière franche l'an prochain, je crois.
Ouais, s'il est en position, j'espère que ça ne sera pas dans une situation soit controversée ou soit...
confuse.
Confuse, exact.
Confuse
exact.
Pour tout le monde, sauf les filles.
Ouais, exact.
Donc, elle savait très bien qu'est-ce qui se passait.
Elle avait bien compris son règlement. C'est juste nous qui ne l'avions pas compris. Si on l'avait lu avant le Grand Prix, on aurait compris, évidemment.
Exact.
On a juste été lâches en disant « Oh, OK, on se fie à ce que tout le monde dit sur l'interprétation du règlement. » Je veux dire, tout le monde ne peut pas se tromper sur l'interprétation du règlement. Ben, finalement, si tout le monde peut se tromper sur l'interprétation du règlement.
Uh-huh. Et voilà. Et et ça, c'était un très bon exemple. Marc-André, vu que tu es venu, on va parler de ce qui s'est passé derrière. On a eu des belles batailles en piste. On a eu surtout, parce que les caméras se sont braquées, surtout sur Esteban Ocon, qui finit 4e, et contre Lewis Hamilton. C'était une belle bataille auquel on a assisté, hein.
Vraiment. Puis franchement, j'ai été souvent critique, vous le savez, avec Ocon, mais là, il me surprend de plus en plus. Est-ce que je suis un peu trop vite dans mes critiques envers lui? Peut-être. Mais honnêtement, cette nuit, c'était vraiment exceptionnel ce qu'il a fait. Il a tenu Lewis Hamilton. Sa voiture n'était peut-être pas dans l'état la meilleure sous la pluie, selon mes observations, mais quand même, ça reste que ça a été franchement bien joué pour Ocon. Et puis, ça va être important pour lui d'avoir de bonnes performances jusqu'à la fin de la saison, parce que le prochain challenge est quand même important pour lui avec Gasly. On connaît un peu la petite rivalité, même si ce sont 2 professionnels, ils vont vouloir se battre ensemble quand même. Et puis, Ocon, ça va être important pour lui de se mettre en en confiance, puis remporter des petites victoires personnelles, et celle-ci, c'en est une très bonne. Et puis, l'Alpine continue de nous surprendre aussi. Elle continue à avoir de bonnes performances. Donc, tant mieux pour lui. Le Français fait bien. Puis, je pense que ça lui fait du bien aussi d'avoir cette petite victoire personnelle contre Lewis Hamilton, qui n'a rien lâché. Quelle défense! Un peu comme Alonso a si bien su le faire il y a quelques semaines, donc même quelques mois. Donc non, franchement, je suis impressionné par Ocon.
Ouais, vraiment, moi aussi. C'était une belle bataille. D'autant plus que c'est pas la première fois, évidemment, qu'on voit Ocon se défendre comme un lion, pour paraphraser Fernando Alonso. Sa victoire en Hongrie l'année dernière contre un Sébastien Vettel, en plus, pas n'importe qui. Ça montre qu'il est capable du, il est 100% capable du meilleur. Et quand il dit que il est probablement le meilleur coéquipier que Fernando Alonso a eu depuis Lewis Hamilton,
ça c'est vrai.
Je suis 100% d'accord avec lui. Pas seulement au niveau statistique, parce que Ocon, avant la course à Suzuka, les deux étaient égalité au terme des deux dernières années. Des deux dernières saisons, mais là, Ocon a le dessus sur Alonso, et vraiment, Ocon, on n'en parle pas souvent, mais ses performances cette saison passent souvent sous le radar. Aujourd'hui, on a exactement la raison pour laquelle il est un vainqueur de Grand Prix. Défendre contre un septuple champion du monde, faut le faire. Vas-y, Jean-Sébastien.
Ocon, tout au long de la saison, va chercher des 5, 6, 7e, 8e place. Il est régulièrement dans les points. Ouais. Là, il va en chercher une 4e et une grosse à part de ça. Il fait la différence en plus pour son équipe, parce que maintenant, Alpine est 4e au constructeur. Mm-hmm. C'est une bataille jusqu'à la fin. Il y a un gros déséquilibre dans cette bataille pour la 4e place, parce que autant Ocon et Alonso sont à peu près égaux au nombre des points, autant il y a une disparité énorme chez McLaren, avec un peu plus de 101 points pour Norris et 29 pour Ricardo. Donc il y a une espèce d'inconstance, et avec le zéro pointé d'aujourd'hui, ça fait très mal, parce que Alpine va chercher beaucoup de points, surtout Ocon, confirme la place, ça leur donne un momentum jusqu'à la fin de la saison. Il y a des fortes chances d'aller chercher la position. Ça peut juste aider à la confiance d'un pilote, surtout pour Ocon. Gasly va arriver là l'année prochaine. Ça va pousser tout le monde vers le haut. C'est très intéressant ce qui se passe chez Alpine. Donc, la bataille d'aujourd'hui, je pense que c'est un révélateur de ce qui pourrait arriver l'année prochaine.
Exactement. Et une des raisons pour laquelle Esteban Ocon connaît une superbe saison.
Et si je peux ajouter un dernier petit point sur ça, quand on regarde aussi l'importance de cette 4e place, c'est notamment parce que McLaren sont allés chercher de gros points lors du Grand Prix de Singapour, ce qui leur avait permis là, de passer devant Alpine. On parle quand même d'une 4e place puis d'une 5e place pour Ricardo, ce qui n'est pas arrivé si souvent cette année. Et puis Ocon répond de cette manière-là avec cette 4e place. Chapeau à lui, parce que il fallait le faire, en fait. C'était important que Alpine ne perde pas le fil et prenne justement ce momentum. Et la fin de la saison va être tellement intéressante dans cette course-là. On n'a peut-être plus de courses pour le championnat, mais on a d'autres courses qui rendent ce championnat tellement intéressant cette année.
Ah oui, définitivement, parce que là, on a Alpine contre McLaren, on a parlé de Perez contre Leclerc, qui va être décisif pour la deuxième place.
Mais... on a sans doute aussi un Alfa Romeo versus Aston Martin aussi pour la 6e place.
Oui, exactement.
Il y a juste 7 points d'écart, c'est intéressant ça.
Et d'ailleurs... gracieuseté de Sébastien Vettel, qui a connu un excellent week-end.
Wow. Quel départ!
À l'inverse de Lance Stroll. Parce qu'il me...
Oui, ça s'est mal passé, mais il a fait une remontada ici.
Exact. Il a fait un Sbinala, pour reprendre le vieux mime, à une remontada. Et surtout, je dois dire, un très bon appel avec un certain Nicolas Latifi pour rentrer au puits pour des pneus inter, ce qui a fonctionné. Et ensuite, ça a été la valse. Et d'ailleurs, petite parenthèse, J'ai pas fait d'évaluation, mais moment cocasse à Haas d'avoir laissé Mick Schumacher en pneu pluie pendant très longtemps.
Cela dit, Mick Schumacher a mené officiellement un tour en Formule 1.
Ouais, c'est vrai. On pourra se le dire. C'est au moins Haas aura mené un Grand Prix dans. Je pense que c'est la première fois que Haas mené un Grand Prix en plus, si je me
c'est
trompe.
C'est possible, mais ils l'ont mené sur 10 mètres.
C'est exactement. Donc, c'est
plus de tours menés qu'Aston Martin et Williams réunis.
Voilà. Ça, au moins, on peut se le dire.
C'est déjà legit. C'est déjà ça.
Mais pour Vettel, vraiment, il a été le catalyseur de cette de ce branle-bas de combat dans la ligne des puits, parce que justement la décision de rentrer pour des inters était bonne, quoi qu'on a eu un peu peur qu'ils se prennent une pénalité pour sortie des puits dangereuses, mais ils étaient côte à côte, donc il y avait rien là-bas.
Oui, et puis ils sont sortis en même temps.
C'est ça.
Ils sont sortis en même temps, c'est juste qu'un est un peu plus loin, donc peut accélérer plus rapidement pour essayer de le rejoindre. À partir de là, la fast lane est assez large, puis une mini voie de service qui permet d'être un petit peu côte à côte. Donc à partir de là, il n'y a pas pénalité.
Ouais, c'est ça.
Non, il ne peut pas y avoir pénalité là.
Non, c'est ça, c'était clair. S'il était revenu, genre, et qu'il avait touché, là, oui, mais là-dessus.
Oui, ou si tu dois mettre les freins, évidemment qu'il y a pénalité, mais là, il n'y a pas eu à mettre les freins.
C'est ça. Donc ça a été vital en plus, puis en même temps, c'est Nicolas Latifi, on ne va pas se le cacher.
Oh, allez, arrête de compter des points aujourd'hui.
Ouais, on en reparlera du.
C'est le représentant de l'Unifolier, allez.
Exact. Mais vraiment, et en plus, peut-être que ça n'a pas été diffusé à la retransmission mondiale, mais il s'est bien battu contre Fernando Alonso, un centième d'avance, ça s'est joué au photo finish. Si jamais vous voyez les images, allez le voir parce que c'était un duel de champion contre Fernando Alonso. Allez voir ça.
Ouais, c'est le genre de bataille que Fernando Alonso adore particulièrement, pouvoir se battre contre à peu près n'importe qui. Puis en plus, c'est un champion du monde encore mieux. Il trouve beaucoup de plaisir. Je suis sûr que Sébastien Vettel aussi il a trouvé beaucoup de plaisir, d'autant plus que c'est son circuit favori. Alonso, je sais que c'est un de ses circuits favoris également au Japon. Je pense qu'elle est à peu près pour tout le monde, dont les téléspectateurs. Ouais. Et puis ensuite, la remontada que Sébastien Vettel mérite amplement le fait d'être pilote du jour selon les fans de Formule 1. Ça aurait pu être Ocon, ça aurait pu être Verstappen, mais non, c'est allé du côté de Vettel qui était à peu près un peu partout dans les positions du Grand Prix, en arrière, a remonté, un peu reculé, puis a fini par remonter. Il a été très chanceux, il a très bien joué sa stratégie. Ça m'étonne qu'on n'ait pas fait la même chose immédiatement avec Stroll, sur une condition changeante, où là, il est très bon. C'est drôle, on l'a laissé aller, puis ouais. On a manqué l'occasion. C'est drôle parce que on s'en parlait avant le balado, toi et moi, Abdou.
Ouais.
Stroll, sur les conditions changeantes, un des meilleurs.
Oui, et ça s'est vu encore.
C'est peut-être pas même le meilleur, mais c'est des conditions changeantes qui sont très, très fines. Mais sur ces conditions-là, un des meilleurs pilotes, hands down.
Ah oui, définitivement. Et puis, écoute, il finit 12e. Sans ça, il aurait pu définitivement...
Il aurait pu finir dans les points facilement. Il aurait pu finir dans le top 10.
Ouais, exact. Donc, c'est dommage. C'est dommage pour Stroll parce que ça aurait pu maximiser justement dans cette bataille pour cette 7e place contre Alfa Romeo. Ça aurait pu donner un push supplémentaire en plus. Mais ça confirme aussi que la Aston Martin a un meilleur rythme de course.
En qualification, c'est une horreur. C'est sûrement en course. Il y a un vrai rythme.
Exactement. Donc, ça au moins, ils auraient pu jouer là-dessus. Mais je crois qu'ils vont pas trop... Ils vont pas trop se stresser avec ça, donc parce que la 6e place de Vettel, quand même, ça égalise le meilleur résultat qu'ils ont obtenu d'ailleurs la semaine dernière avec Stroll et que Vettel a fait à Bakou un peu plus tôt cette année. Et là, nous allons parler du GOAT.
Ah.
Et qui a vraiment, mais vraiment, fait rager la Fédération française de la Loose. Je me demande comment ils se sentent en ce moment, étant donné que Nicolas Latifi finit 9e et marque 2 points, ce qui égalise le meilleur résultat de Williams cette saison avec Nick DeVries.
Ils sont vénères parce que dans leur évaluation post-Grand Prix, ils ont donné la note de 0 sur 10.
Ils l'ont fait!
Ils l'ont fait. Ils ont donné la note de 0. C'était prévisible. Le GOAT qui termine, qui est maintenant 20e dans un championnat de 20 pilotes, parce qu'avant, évidemment, il était 21e dans un championnat de 20 pilotes. Sauf que c'est faux parce qu'il était en fait 21e dans un championnat de 22 pilotes. Ouais. On oublie Nico Hülkenberg qui a fait 2 Grands Prix et qui a fait 0 pointé, mais quand même. Le GOAT, Nicolas Latifi. Gautifi qui marque 2 points. Solide course de sa part, on va se le dire.
Oui.
Il a dépassé des bonnes voitures. Il était dans un bon jour. La voiture répondait bien. C'est dommage qu'Albon ait abandonné parce que lui aussi, je pense qu'il aurait pu marquer des points.
Oui.
C'était une journée intéressante pour la Williams, mais non, c'est juste dommage que Albon ait abandonné. Mais Nicolas Latifi, solide performance. On espère d'autres points pour lui pour la fin de la saison quand même, parce que c'est quand même chouette d'avoir des gens gagner. Ça fait toujours du bien. Dans son cas, c'est chouette quand même. Ouais. On a beau dire que c'est pas le meilleur pilote des Formule 1, mais il est quand même pas exécrable. On se souvient de pilotes de Formule 1 des années 90-2000 qui étaient là pour on sait pas trop quelle raison. Lui avait sa place, mais n'a jamais pu pousser son talent à un autre niveau. C'est juste dommage.
Ouais, exactement. Et en plus, et ça fait oublier aussi le fait qu'il a essayé, il s'est trompé de chemin lors de la séance, lors des essais du vendredi.
Ah oui, mais en même temps, il pleuvait tellement fort que.
Ouais, exact. Donc ça, on peut le pardonner là-dessus. On le pardonne complètement.
C'est plus rigolo qu'autre chose. C'est pas une erreur très, très grave.
Exactement. Marc-André, qu'est-ce que tu as pensé de la course du Torontois?
Mais ça va lui faire du bien. Puis, tu sais, on connaît un peu son histoire aussi, les menaces qu'il a reçues en fin d'année, ça l'a vraiment chamboulé.
Oh,
oui. Et puis, quand on voit un peu son parcours, il avait tellement eu une bonne fin de saison l'an passé que ça aurait eu une fun de le voir poursuivre tout ça. Je pense que ça l'a tellement affecté qu'il n'a pas été capable de se ramener au niveau où il était. Ce n'est pas le meilleur pilote, comme Jean-Sébastien l'a dit, mais effectivement, il n'est pas... Il est pas le pire. Et puis, quand je regarde un peu son parcours, je pense que ça va lui faire du bien, ces deux points-là. Il va pouvoir quitter la Formule 1, peut-être la tête plus tranquille. Il reste encore des courses en plus. Tu sais, la Williams peut permettre à quelques reprises à Albon et à Latifi d'aller dans les points lorsque les circonstances y sont. Donc, j'espère vraiment pour eux qu'il va avoir une autre opportunité, que ce soit pour Albon ou pour Latifi. Évidemment, j'aurais un parti pris. Mais non, tant mieux pour lui. Je pense que ça lui a fait du bien. Ça a été une belle course. C'est le fun de le voir comme ça, dans cette énergie puis dans cette zone-là. Et puis, non, tant mieux. Puis peut-être que on va en voir d'autres. En tout cas, je l'espère.
Oh, oui, je lui souhaite. Il reste États-Unis, Mexique, Brésil... Et Abu Dhabi, en plus du sprint au Brésil, mais bon, ça...
Il y a deux Grands Prix où est-ce qu'il peut avoir la plus quand même. Hein? États-Unis, c'est pas impossible. Brésil, c'est loin d'être possible.
C'est très possible.
C'est très possible. Et surtout...
Est-ce que tu penses à Abdou que ma rencontre avec lui aujourd'hui, cette semaine, l'a ravivé?
Ah oui, oui! Parce que, en fait, pour expliquer un peu le contexte, c'est que Marc-André est allé dans une ferme. Il a vu des... chèvre, a.k.a. goat. Donc,
voilà. On est profité pour prendre une petite photo avec les Gautifi.
Ouais, je sais. C'est... Donc, peut-être ça pourrait être... Tu pourrais faire ça à chaque semaine aussi. Bon, et avant de passer aux choses sérieuses, juste pour vous dire que le Grand Prix du Japon, officiellement, est la 31e course la plus courte en matière de nombre de tours disputés. Évidemment, on va pas se le cacher. Le premier, c'est Belgique 2021. Mais il se classe en même temps avec des Grands Prix comme les Grands Prix de Belgique, étant donné que ce sont des courses qui étaient sur le circuit de Spa à 14 kilomètres. Donc, ce qui faisait en sorte que c'était pas 44, mais bien 28 tours. Donc,
L'autre statistique intéressante, je te l'avais demandé pendant le Grand Prix. Quelle est la dernière fois on a vu deux Grands Prix consécutifs ne pas se rendre au terme de l'épreuve?
Si mes calculs sont bons,
c'est Espagne et Monaco 1975. C'est ça que tu avais trouvé.
Ouais, exactement.
Espagne en raison de l'accident qui a causé quelques dizaines de morts.
Exactement, l'accident d'Alastair Mellon.
Oui. Et puis après, Monaco, ben, parce que la pluie, évidemment, à Monaco, quoi.
Ouais. 75 tours sur 78. Donc, c'est ce que j'avais trouvé. Mais évidemment, si jamais il y en a d'autres, il y en a eu d'autres dans le passé, évidemment, n'hésitez pas à me le demander.
A priori, on pense que c'est la première fois en 47 ans où deux grands prix de suite n'arrivent pas à leur conclusion parce que Singapour, il manquait deux tours.
Exact. Donc, voilà, ça, c'est peut-être une statistique intéressante à surveiller. Ou si, sinon, il y a toujours Sean Kelly, le grand statisticien de la Formule 1 qui peut aider aussi. Soit confirmer ou ajouter son grain de sel. Bon, passons aux choses sérieuses, parce qu'il faut qu'on parle du tracteur qui était présent sur la piste pour enlever la voiture accidentée de Carlos Sainz pendant que les voitures roulaient et pendant que Gasly essayait de rattraper la voiture de sécurité alors qu'il roulait à quoi 250 km/h à peu près. Gasly a été pénalisé de 20 secondes, l'équivalent d'un drive-thru. En plus de peur de se prendre des deux points de pénalité. Et la FIA, dans un communiqué, a dit qu'elle allait enquêter sur ce qui s'est passé, en fait, avec pourquoi le tracteur s'est retrouvé tout de suite en piste alors que la piste était encore active, même s'il y avait une voiture de sécurité. Évidemment, si vous avez... Et les images qui circulent beaucoup sur les réseaux sociaux, la Formule 1 n'a pas mis de reprise sur dans la retransmission en direct. Jean-Sébastien, toi, tu as regardé la course sur TSN qui a le feed?
Non, moi, j'ai l'application de la Formule 1, donc je regarde sur ma télévision, donc je suis abonné. La reprise a été montrée, je pense, à un moment donné.
Ah, OK.
Je confonds, c'est en plein milieu de la nuit. Peut-être c'était sur mon téléphone, peut-être c'était à la télévision, mais à tout le moins, de la retransmission mondiale avec les voix de Sky l'ont montré à plusieurs reprises l'incident et ont montré, et ont longuement discuté autour du sujet. On pourra y revenir éventuellement, là, donc sur la discussion qu'il y a eu sur Sky Sport qui est loin d'être les plus intelligentes à mon sens.
Ouais, et ça c'est pour ça.
Parce que c'est la seule voix discordante qu'on a entendue.
Ouais, exact. C'est principalement des feeds internationales dans F1 TV. Mais pour l'incident, quelle est après une courte nuit de sommeil, votre réaction par rapport à ce qui s'est passé? Je vais commencer avec Jean-Sébastien.
C'est inacceptable. C'est inacceptable. Déjà, il faut comprendre pourquoi cette voiture-là s'est ramassée sous le Grand Prix. Est-ce qu'il y a eu une erreur de communication entre la FIA et le groupe de commissaires situé à cet endroit-là? Ça sera à déterminer. Si ça l'est, c'est d'autant plus grave. Si c'est la FIA qui a envoyé la voiture là-bas, c'est extrêmement grave. C'est infiniment plus grave, comme si on n'avait pas appris ce qui s'était passé 8 ans auparavant sur ce même circuit. Oui, maintenant, on a pu dormir quelques heures. 5 heures plus tard, on sait maintenant à peu près ce qui s'est passé. Pierre Gasly a reçu une pénalité de 20 secondes pour vitesse excessive sous drapeau rouge, non pas en raison du tracteur qui se situait à cet endroit-là, mais parce qu'il allait trop vite.
Ouais.
À la limite, soit il faut ralentir la vitesse partout sur le circuit. Je comprends cette chose-là. Cependant, le fait qu'il y ait un tracteur à cet endroit-là est complètement inacceptable. Le tracteur aurait dû attendre que toutes les voitures soient passées. Donc, je préfère attendre le résultat d'enquête pour savoir exactement qu'est-ce qui est arrivé et qui est fautif. Ouais. Parce qu'il y a une possibilité que ça soit pas une faute de la FIA, mais uniquement du groupe de commissaires à cet endroit-là qui a décidé d'y aller. Mm-hmm. Disons-le. Après, il faut tirer ça au clair parce que on ne veut pas voir ça. Il faut régler la situation. Il faut sans doute mettre plus de grues autour du circuit, comme on fait à Zandvoort ou à certains endroits, il y a 3-4 grues en l'espace de 2-3 virages. À cet endroit-là, on est capable d'être des deux côtés du circuit quand même, parce que le circuit, on est un peu après l'épingle, on arrive après du virage en cuillère. Donc à partir de là, on peut mettre quand même une grue à cet endroit-là. Je pense que c'est pas impossible. Il faut trouver des nouvelles solutions parce que ces véhicules-là, c'est très dangereux. On l'a déjà vu au Brésil, ça aurait pu être très dangereux aussi à la Curva do Sol. Il faut régler absolument cette situation-là parce que c'est inacceptable. Toutes les voix en Formule 1 étaient contre, à l'exception de Johnny Herbert, pundit sur Sky Sports, qui lui trouvait ça complètement... lui disait pas de problème, pas de problème, mais c'était Gasly le fautif. Il mérite d'être viré.
Ouais. Je l'aime bien Johnny parce que bon, j'ai une photo de lui au Grand Prix du Canada.
Oui, il est très drôle, très sympathique, mais là-dessus, je pense qu'il s'est totalement merdé.
Ah, oui.
Il n'a pas compris la situation.
Oui.
C'est inacceptable. Ouais. Tout le monde dans le paddock était contre la présence du tracteur et du fait que Gasly, oui, a sans doute peut-être fauté, mais c'est pas tant de sa faute. C'est davantage la faute d'un élément étranger sur le circuit.
Voilà. Parce que c'est vrai qu'on a eu... Je pense que c'est pas la première fois, honnêtement, qu'une situation comme celle-là arrive. Je pense.
Non, non, on se rappelle de Brésil il y a une dizaine d'années, un peu plus, là,
ouais,
à la Curva do Sol, quand il y avait 3-4 voitures.
Ouais.
Ça s'accumulait, puis il y avait un tracteur qui était là, ça aurait pu très mal finir.
Et même, je te dirais, Lance Stroll au Grand Prix d'Émilie-Romagne 2020 aussi, quand il...
Oh oui, qu'est-ce que c'était dangereux.
Ça, c'était dangereux. Puis, si ma mémoire me trompe, Stroll n'a pas été pénalisé sur l'action parce que ça, ben, évidemment, c'était sous la voiture de sécurité.
Oui, ça, mais quand même. Correct.
Mais c'était dangereux. Donc,
surtout que la visibilité est nulle.
Oui.
À ce moment-là. On ne voit rien sur la caméra. Et la caméra, il faut juste ajouter une chose. Les caméras, la caméra avant puis les caméras des Grands Prix sont beaucoup plus performantes que la réalité.
Ouais.
Il faut juste comprendre deux choses aussi sur la technique. La caméra arrière, lorsqu'on voyait qu'est-ce qui se déroule en arrière d'une voiture, montrait beaucoup plus la réalité des choses. À la fin du Grand Prix, on voyait que c'était beaucoup plus sombre que sur une caméra régulière.
Exact.
Parce que ces caméras-là ont une ouverture beaucoup plus grande, capte beaucoup mieux la lumière du jour, enfin du peu qu'il reste de la lumière du jour. Et donc, déforme la réalité des choses par rapport à ce que l'œil humain va voir. Donc, on pense que c'était clair, mais en réalité, c'était beaucoup plus sombre, c'était beaucoup plus trempé, on voyait beaucoup moins bien. Donc, déjà, ce qu'on aurait à peine à voir un tracteur est encore beaucoup plus difficile à voir en réalité.
Exactement. Donc, et en plus, d'autant plus que la course a duré au total 3 heures, donc il était 17h04, le coucher du soleil était à 17h28, si je ne me trompe pas. Donc,
oui, il faisait noir après le podium.
Il faisait,
on voyait qu'il faisait presque noir parce que les lumières étaient bien allumées, puis la caméra à l'épaule va chercher plus de lumière qu'en réalité, donc il faisait noir en fait.
C'est ça. Donc, c'était la visibilité, surtout bon, dans les circonstances au départ, était horrible. Donc, moi, je pense que c'est mieux d'attendre la décision de la FIA, leurs explications, parce que, bon, je l'ai dit sur Twitter, évidemment, à réaction chaude, mais... la FIA a toujours un devoir de transparence et j'espère que ce sera le cas parce que une situation telle qu'elle est déjà à la base, elle est inacceptable d'avoir des tracteurs sur une piste qui est complètement active, peu importe ce qui est la situation, que ce soit drapeau vert ou drapeau jaune avec voiture de sécurité. Mais de là à essayer de tout de suite blâmer la FIA. Certes, ils ont une responsabilité, mais peut-être aussi que c'est la, comme tu le dis, Jean-Sébastien, c'est la faute des commissaires où il y a eu un manque de communication. Donc, c'est sûr que tant qu'on n'a pas une enquête, parce que je lisais aussi sur Twitter, quelqu'un suggérait ça devrait prendre 10 minutes. Moi, je pense que c'est beaucoup plus que ça. Donc, c'est de voir tous les éléments possibles. Parce que je suis sûr, il y a des caméras CCTV dans le race control qui voient tout.
Il y a des caméras qu'on ne voit pas.
Exact. Toutes les caméras qu'on ne voit pas. Et aussi, le fait que... bon, la communication entre les différents postes de commissaires de piste, de commissaires de piste et tout ça, les marshals aussi, comment ça s'est fait? Parce que ça a l'air, moi je pensais que c'était un slam dunk, mais ça a l'air plus compliqué que ça. Donc, je pense que maintenant, à tête reposée, c'est mieux d'attendre ce que la FIA va dire avant de vraiment leur lancer le pot complètement. Donc, moi, je pense que je préfère attendre avant de rendre une décision. C'est sûr, à chaud, c'est plus facile. Ben, c'est plus facile, mais c'est aussi facile de se tromper. Mais je pense que c'est mieux d'attendre. Je disais, j'allais m'emporter, mais ce ne sera pas le cas au final. Donc, Marc-André, toi, ta réaction?
Ah, c'était terrifiant. C'était terrifiant, surtout quand on repense à ce qui s'est passé il y a 8 ans. Je pense que c'est là le nerf de la guerre. On était supposé d'avoir appris de cet accident malheureux. Et puis, je pense que la réaction de Philippe Bianchi, des pilotes, vaut pour beaucoup. Ce tracteur-là n'était pas supposé d'être là. Et il aurait dû attendre. Il y a bien des choses qu'on peut faire avant de faire entrer un tracteur, surtout quand la visibilité est complètement nulle. On ne voyait absolument rien. Il était, oui, en bord de piste, mais le derrière dans la piste, c'était vraiment dangereux. Donc, comme vous disiez, à chaud, moi aussi, j'ai blâmé la FIA. On verra les conclusions de l'enquête. Puis, en espérant aussi que la FIA soit, justement, reconnaisse ses fautes si jamais c'est de leur faute et qu'on ait un coupable en fin de compte, que ce soit les commissaires de course qui ont pris l'initiative ou la FIA. Mais il y a quelqu'un qui va devoir répondre aux questions, du moins. On verra. J'espère que ce sera pas trop long non plus, parce que la prochaine course s'en vient quand même vite, puis il faudrait pas qu'un tel incident revienne. Donc, il va falloir que l'enquête soit rapide, puis qu'on comprenne qu'est-ce qui s'est passé. Mais non, c'était terrifiant. Écoute, on a vu le pire de notre sport hier. Et puis, en espérant ne plus jamais revoir ça.
Ben, moi, c'est pas tant essayer de trouver un coupable, c'est plus les solutions proposées pour éviter une autre situation mais similaire.
J'aime beaucoup la grue parce que, écoute, c'est là, c'est hors du circuit. Ça serait quand même une avenue intéressante si on pouvait rajouter des grues. Puis, bon, je comprends que je pense que dans certains grands prix, l'espace est quand même mince, mais il y a quand même du travail à faire. Puis, je pense que la grue pourrait quand même devenir une solution qui s'étend partout, si on est capable, évidemment.
Ouais, exactement. Autre point aussi que je veux amener, puis on va essayer de conclure là-dessus. Et Jean-Sébastien pour en témoigner. On en parlait en conversation privée avec Pierre Mahiotte, un ami de l'émission. Il y a Andrew Bunson qui avait rapporté que Liberty Media avait proposé à l'organisation du Grand Prix du Japon de déplacer l'épreuve au printemps.
Mois d'avril.
Mois d'avril principalement, pour éviter tout problème de typhon et tout. Mais l'organisation du Grand Prix du Japon a refusé, veut garder sa date du mois d'octobre. Évidemment, je me souviens, l'accident fatal de Jules Bianchi a mené à, disons, au fait de reculer les heures de départ dans les courses à l'extérieur de l'Europe. C'est-à-dire, par exemple, le Grand Prix du Japon à la base était disputé à 15 heures, je me souviens, en 2014. Maintenant, la course est à 14 heures, ce qui fait en sorte qu'on est passé de 2 heures au Québec à 1 heure pour éviter justement que dans une situation où on doit essayer de si on dépasse le temps de l'événement à plus de 2 heures, étant donné que la limite était 4 et non de 3, comme on l'a vu cette nuit, ben, ça aurait été plus plausible. Est-ce que pour certains grands prix, justement le Japon, étant donné qu'on a atteint la limite et que le coucher du soleil était à 17 heures, est-ce que ça aussi, ça pourrait être une solution de revoir les heures de départ à certains événements, Marc-André?
Ben, ça peut être effectivement une solution pour régler bien des problèmes. En plus, je pense que si on avait avancé un peu l'heure, nous, ça nous aurait avantagé En France, ça les aurait avantagés. C'est moins tard.
Non, ça va pas marcher, en fait, Marc-André, parce que si on avance le Grand Prix, nous, ça veut dire que les Européens sont obligés de se lever plus tôt. Mais le problème, c'est qu'après le Grand Prix, lui, il pleut toujours tout autant. Donc, on aurait été dans la même situation parce qu'on n'aurait pas eu le Grand Prix.
Raison.
Donc, le Grand Prix commence à 7h heure française, 6h heure britannique. Ouais. Si on l'avance encore plus tôt, je me rappelle, il y a plusieurs années, à la fin des années 90, l'Australie commençait à 22h du Québec. Donc, on demande aux Britanniques de se lever pour un départ à 3h du matin, 4h en Europe continentale. C'est difficile.
C'est très difficile.
C'est pas le but de Liberty Media. Ils veulent commencer plus tard. C'est pour ça qu'on a les Grands Prix à 9h heure du Québec, 15h heure France, 15h heure continentale européenne.
C'est ça. Donc, c'est exactement ça le problème, parce que tu dois, et surtout l'Europe, c'est quand même une grosse...
C'est le principal marché.
C'est le principal marché. Donc, tu dois faire en sorte que t'aies le plus de monde possible qui regarde tes courses, et c'est pas pour rien que le Grand Prix de Vegas est justement aux mêmes heures que le Grand Prix du Japon. Donc, dans cette situation, c'est assez difficile, mais je me demande jusqu'à un certain point, là où on doit trouver la limite, parce que évidemment la formule, ben la FIA veut tout faire pour qu'on ait un Grand Prix, évidemment avec toutes ces histoires de pneus pluie extrêmes et tout,
les enjeux financiers qui sont extrêmement lourds. Liberty Media a racheté la Formule 1 pour plusieurs milliards, donc ils veulent essayer de faire un retour sur investissement le plus rapidement possible. C'est normal qu'ils mettent un maximum de Grand Prix. C'est normal qu'ils fassent pression sur la FIA pour qu'on trouve des nouvelles formules pour tenir le Grand Prix en tant que lui-même pendant un jour où il y a de la pluie. Donc, ça devient difficile. Le changement qui est à faire, c'est le changement dans le calendrier.
Ouais.
Le mois d'octobre, c'est difficile dans cette région de l'Asie. Il faut le mettre dans une position beaucoup plus favorable. Au printemps, il y a beaucoup plus de possibilités. N'oubliez pas, avec les changements climatiques, la météo devient de plus en plus incertaine. Reconnaissons-le, c'est un fait. L'autre difficulté, c'est que le Grand Prix du Japon, sauf erreur, on pourrait faire les calculs, mais je pense qu'il fait partie des Grands Prix qui, dans les 15 dernières années, a une moyenne de pluie plus élevée que la normale, si c'est pas un des plus élevés. Ouais. On se souviendra, Fuji 2008, c'était une horreur, sans don, ce Grand Prix-là.
Oui.
La qualification du Japon qui était déplacée au dimanche matin en raison du passage d'un typhon.
Oui.
En 2011?
Il y a eu,
2012.
Je sais qu'il y a eu 2019 où justement on a reporté les qualifications.
2019, où on a reporté les qualifications. 2004. On a eu aussi plusieurs années avant, 2004. Ça commence à faire beaucoup, contrairement à des Grands Prix où il n'y a pas de pluie, excluant les pays du Golfe, évidemment. Là, ça ne compte pas, il n'y a pas de pluie. Mais prenons un Grand Prix comme Montréal. Est-ce qu'il y a eu autant de pluie? Oui, bon, quand même, mais pas autant. La France, si on les met dans toutes les années du calendrier, il n'y en a pas tant.
Ouais.
Si on va chercher les Grands Prix où il pleut souvent au Royaume-Uni, c'est quand même pas si pire.
Ouais.
Donc, le Japon a une moyenne au bâton où quand il pleut fort, beaucoup, longtemps. On est proche de la Malaisie en quantité de pluie. Quand il pleut, ça pleut fort, là.
Ouais.
Donc, il faut essayer de le replacer au calendrier. Le mois d'octobre, on le teste, on voit que ça marche pas. Il faut le mettre ailleurs. Au printemps, là, ça serait une belle période. Juste après le Grand Prix d'Australie, peut-être. Ouais. On reste dans la région, puis ensuite, on tourne en Europe pour... mais ça pose après le problème du déplacement à Singapour, qui peut être difficile. Donc,
ouais.
Il y a cette logique-là qui entre en ligne de compte. Donc, comment on refait le calendrier, ça peut être difficile. Surtout que la Formule 1 va être plus verte. Bon, ça reste un vieux pieu. On sait bien que... C'est pas vrai, là, c'est pas les voitures en soi qui polluent, c'est la création des voitures et le déplacement de tout le monde qui est le principal problème polluant, là. C'est pas les 20 voitures sur le circuit qui vont faire en sorte qu'on va sauver la planète, mais voyez où je veux en venir.
Ouais.
Donc, il faut essayer de revoir le Grand Prix du Japon dans l'ordre du calendrier. C'est pas extraordinaire. Je pense que Aida, même en 94, il y avait plus, donc, il faut essayer de voir des choses. Il faut essayer de faire un changement. Puis le changement, c'est pas sur l'heure du départ du Grand Prix. C'est qu'il est tellement tard dans le calendrier que si on veut faire une heure décente pour le reste de la planète, surtout pour l'Europe, ben ça entre en contradiction avec le temps qui reste dans la journée, avec la période d'ensoleillement, avec le jour, en fait, avant que la nuit tombe.
Ouais.
Et tout simplement juste les conditions météo du moment de la région. Si on fait un Grand Prix du Canada au mois d'octobre, on sait très bien qu'on ne peut pas le faire.
Ouais. Et ça,
c'est pareil pour le Japon. Il faut commencer à revoir cette situation-là.
Et voilà.
Parce que c'est chiant. C'est chiant. On va se le dire, c'est chiant perdre 3 heures.
Ah oui, écoute.
On n'a pas juste à faire.
C'est ça.
Moi, j'avais envie de dormir.
Ah, moi aussi, mais j'ai une belle...
Mais on comprend les Australiens.
On comprend les Australiens.
On comprend les Australiens, on comprend les Japonais, on comprend les Néo-Zélandais qui adorent la Formule 1. C'est difficile pour eux aussi. Puis en plus, eux aussi, dans la nuit de dimanche à lundi, comme on dit au début du balado.
Voilà. C'est ça. C'est
des guerriers.
Ah oui. Si jamais il y en a qui nous écoutent directement de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, on vous lève.
Chapeau, hein.
On vous lève notre chapeau parce que c'est. Vous êtes des vrais, des vrais de vrais. Mais oui, écoutez, je pense qu'à un moment donné, j'ai envie d'apprendre pourquoi, en fait, c'est pas possible de déplacer le Grand Prix du Japon de octobre en avril du point de vue des organisateurs, mais ça, il va falloir que. Pardon, je.
Ouais, parce qu'on n'a pas eu cette information-là, on ne sait pas pourquoi exactement, c'est pas clair.
Exactement. Donc, voilà, c'est quand même une situation qui a besoin d'être réglée et surtout, ça tombe à un très mauvais moment pour la FIA puisque lundi, c'est évidemment la sortie des audits financiers concernant le cap salarial qui est attendu par pas mal tout le monde. Donc, la FIA a un gros travail pour la semaine qui s'en vient. Alors, c'est ce qui complète cette émission d'après-course du Grand Prix du Japon. Donc, on voudrait avoir votre opinion à savoir sur ce qui s'est passé avec l'histoire du tracteur, évidemment, mais aussi sur la course. Et pour le faire, vous pouvez nous rejoindre sur toutes vos plateformes de podcast préférées, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast et autres. Et évidemment, nous sommes sur les réseaux sociaux à Facebook, Twitter et Instagram à Le Bulletin GP. D'autant plus qu'on est disponible sur la Monoplace, le groupe Facebook créé par des Québécois, d'ailleurs qu'on salue. Et évidemment, on a la Ligue, le championnat de sim racing canadien, disponible tous les jeudis à 20h sur Twitch. Puis parlant de pluie, il y a plu au circuit Jules Villeneuve lors de la dernière épreuve. Donc, j'allais dire Marc-André, mais malheureusement, je pense qu'on a perdu la connexion, mais on le remercie d'être venu nous parler du Grand Prix. Jean-Sébastien, merci infiniment d'avoir été là.
C'est un plaisir, je m'en vais faire un autre café pour faire ma journée.
Ouais, moi aussi. Donc, sur ce, mon nom est Abdou Sal. On continue toujours de rouler avec le bulletin GP. On se retrouve pour l'épisode numéro 123 pour parler du budget et de Pierre Gasly. Et de Gasly chez Alpine. Merci d'avoir été là. À la prochaine.